France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, on remonte le temps de 20 ans. 20 ans en arrière, en 2006, un album sort et dépasse immédiatement le cadre du rap pour devenir un phénomène national, culturel, générationnel. Cet album, c'est Dans ma bulle, signé Diams, un disque qui a tout emporté sur son passage. Les charts, les radios, les débats, les cours de récré, les salons et parfois même les plateaux télé. Un album à la fois intime et frontal, populaire et politique qui a fait de Diams l'artiste le plus écouté du pays à ce moment-là, tout genre confondu. Mais 20 ans après, une question demeure. Qu'est-ce que Dans ma bulle dit encore de nous, de la jeunesse, de la France, du rap, de la place des femmes, du succès, de la pression, du silence aussi? Pour en parler ce soir autour de la table, trois regards complémentaires. L'artiste Attic, pour qui Diams, je crois, était une inspiration.
Bonjour Mehdi. Bah oui, écoute, Diams, c'est un secret pour personne, je pense. Pour l'avoir déjà crié à de nombreuses fois, c'était la plus grosse inspiration que j'ai eue, moi, dans ma jeune adolescence, on va dire.
On va en parler évidemment aujourd'hui. En plus, ça me fait bien, c'est la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Fort Boyard. Donc je suis content qu'on se voit dans un endroit plus confortable aujourd'hui.
Voilà, parce qu'aujourd'hui, personne ne va se prendre de ketchup ou de sauce tomate.
Pas de scarabée aujourd'hui. Voilà, pas de scarabée. On a également Masta, témoin privilégié de cette époque, un des beatmakers les plus emblématiques du rap français qui a travaillé de près avec Diams pendant longtemps. Comment ça va?
Ça va très bien.
Bon, merci d'être là en tout cas. Et l'autrice Bettina Gio, docteur en littérature et civilisation française, autrice notamment donc, du livre Pas là pour plaire, portrait de rappeuse. Comment ça va, Bettina?
Très bien, merci.
Bon, merci d'être là en tout cas. À la régulière spéciale Diams, c'est tout de suite.
France Inter. À la régulière. Mehdi Maizi.
Combien de sœurs sont déjà mères et déjà veuves, ma belle? Moi aussi, je suis comme toi, je traverse trop de périodes de doute. Parfois, les hommes me dégoûtent, mais je tiens debout, ma sœur. On est pareil que des petites meufs qui rêvent de se ranger. Avec le cœur, les dents qui raillent le plancher.
Big up, big up, big up, big up.
Ça, c'est un extrait du morceau Big Up. Bettina, pardon, je dis Bettina Gio, c'est Bettina Gio. Excuse-moi
oui,
de t'avoir écorché ton nom de famille. Peut-être qu'on peut commencer, évidemment, on va parler de Dans ma bulle, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, mais peut-être commencer avec vos premiers souvenirs de Diams. Attic, j'ai envie de commencer avec toi. Toi aussi, qui l'a découvert en tant qu'auditeur au départ, mm-hmm. Comment tu découvres Diams? Est-ce que tu te souviens du début, d'un morceau, d'un album peut-être?
Moi, le premier morceau, c'est DJ. À l'été, ça doit être l'été 2003 ou 2004, je pense.
Quand ça devient un tube national, en fait.
Voilà, je suis certainement en vacances dans un camping parce que c'était le programme de mes parents chaque année. Et j'adore ce morceau. Et en fait, ma vraie découverte avec Diams, c'est juste avant la sortie de Dans ma bulle. Elle fait une. Je sais même pas si elle fait une tournée de concert. En tout cas, elle fait un concert à Ris-Orangis au Plan dans le 91, donc chez elle, où elle présente l'album avant sa sortie. On ne sait pas forcément qu'elle va présenter l'album, mais
oui.
Elle fait un concert.
Il y a Diams, donc.
Voilà. Et mon oncle m'offre des places parce que sa conjointe de l'époque était ultra fan de Diams. Vraiment, c'est ultra fan. Donc, on y va tous les trois. Et moi, j'ai 14 ans, du coup. Je me retrouve au Plan à Ris-Orangis. Et en fait, je me rappelle, j'avais un Sony Ericsson et j'ai enregistré en mémo vocale tout le concert. Et pour la petite histoire, à ce concert-là, en fait, elle avait sorti le morceau Feuille Blanche qui est dans ma bulle,
ouais.
Et en fait elle nous explique avant le morceau, elle dit écoutez, le prochain morceau, j'ai voulu des invités sur l'album, il y en a un que j'ai pas pu avoir mais je voulais vous montrer ce que ça donne. Et donc le premier couplet c'est elle, et le deuxième couplet elle a pris, je crois que c'est le couplet de I Lose Yourself de Eminem,
okay.
Qu'elle a placé sur Feuille Blanche et c'est incroyable.
Donc,
je sais pas si toi t'es déjà au courant de ça.
Ça veut dire quoi? C'est que Eminem devait être sur le morceau.
Ah bah je pense qu'elle a demandé à Eminem.
J'avais pas cette information. L'émission commence en fanfare.
Non, personne ne sait ça parce que en fait je pense qu'elle l'a pas fait beaucoup ce truc-là de faire ce mash-up en concert. Mais moi j'ai été témoin de ça et j'avais l'audio dans mon Sony Ericsson pendant des années. Je sais pas où il est malheureusement,
wow.
Mais c'était incroyable. Vraiment, je crois que c'était Lose Yourself. Ou...
Alors, je suis obligé de me tourner vers Masta parce que là on est déjà allé sur l'album Dans ma bulle et bah toi, t'as coproduit tout cet album, donc t'as vraiment suivi de très 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 près. C'est vrai ça? C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai, j'imagine que Attic évidemment dit la vérité, mais est-ce que t'as des souvenirs d'une éventuelle collaboration entre Diams et Eminem?
Il y a eu des demandes qui ont été faites à l'époque,
okay.
qui
n'ont pas abouti.
Qui n'ont pas abouti, mais ouais, en effet, ouais.
Voilà. Ok. Alors, Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé.
Non, non, vas-y, vas-y.
Non, j'allais juste te demander, toi, du coup, comment tu rencontres peut-être Diams, parce que là, on a parlé, Attic parlait de le premier album DJ, donc c'est sur Bruit de Femme. Là, on est allé sur Dans ma bulle. Avant ça, il y a Premier Mandat, hein, qui est son premier album. Ouais. On sait qu'elle est dans l'entourage de la mafia tressée, etc. Toi, t'es déjà dans l'rap français. Ouais. C'est à ce moment-là que tu la rencontres, que tu la découvres
Ouais, à l'époque de Mafia Tressée et à l'époque de Premier Mandat, parce que le compositeur de Premier Mandat, c'est Blackmo.
Black Mozart.
Et exactement. C'est un mec qui était à l'époque dans Le Ménage à Trois, donc le crew qu'on avait monté avec Debal, Deneg, Adoc, etc. Voilà, ouais. tout ce crew-là.
Groupe, enfin, crew très important dans les années 90.
Et donc, je la rencontre à cette époque-là. Parce que je vais de temps en temps, je vais boire Blackmo en studio, et donc Mélanie, elle est là en train d'enregistrer. Donc on se rencontre à cette époque-là.
Est-ce que tu la trouves directement talentueuse? Est-ce que tu sens directement qu'il y a quelque chose chez
elle? Ouais, il y a un vrai truc au niveau de la plume, au niveau de l'attitude et au niveau de l'amour de la musique et de l'amour du rap en fait. Donc et tout de suite, ça accroche très très vite. Et après, on collabore très très vite dans un premier temps sur Mission Suicide.
Qui est la compilation que vous aviez produite en 2001.
Avec Tofa, qu'on a produit en 2001. Et dans cette compile, d'ailleurs, elle nous ramène Cynic, qui c'est son premier couplet avec Lino et FD. Et ça accroche tout de suite et on bosse très très vite ensemble à partir de ce moment-là en fait. Dès Mission Suicide, dès 2001, on bosse ensemble.
Bon, puisque tu as mentionné Premier Mandat, qui est son premier album sorti en 99, on peut écouter un extrait d'un morceau qui s'appelle Drôle de Bise en featuring avec Driver.
Je travaille dur, bosse dur, comme je n'ai jamais travaillé. La motivation est la normale, je suis passionné.
Tu me dis que le rap n'est pas un métier, maman. Mais c'est avec ça que je paierai ton loyer, maman. Pour le moment,
c'est prétentieux.
Je parle beaucoup, mais quand t'auras plein de bijoux,
tu verras que ça vaut le coup.
Tu me dis que le rap n'est pas un métier, maman. Mais c'est avec ça que je paierai ton loyer, maman.
Pour le moment,
c'est prétentieux.
Je parle beaucoup, mais quand t'auras plein de bijoux,
tu verras que ça vaut le coup.
Bettina,
oui.
Toi, c'est quoi ton premier contact avec,
oui,
avec Diams?
Bon, c'est complètement différent de contact que j'ai entendu ici. En fait, moi, à l'époque, c'était 2003-2004, j'avais pas 14 ans, j'avais 10 ans de plus, et j'ai gardé des enfants. J'ai gardé deux petites filles, une de 6 ans, une de 10 ans, qui écoutaient Diams en boucle. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai découvert Diams.
Okay. Alors, ce qui est intéressant, c'est au début de sa carrière, c'est qu'il y a Premier Mandat, effectivement, où elle est présente dans le rap français, dans des compilations, par une Mission Suicide, avec une compilation que tu connais bien, Masta, mais qui est sans doute qui a marqué le rap français. Et puis, avec Brut de Femme, il y a ce moment où, notamment avec DJ, elle va devenir
mainstream.
Ouais. D'un coup, en fait, hein, et qui était d'ailleurs assez surprenant quand tu connaissais l'artiste, etc. Même quand tu voyais les morceaux qui sortaient avant, je pense au morceau 1980 que tu as produit, je crois, si je ne dis pas de bise, Masta, qui est vraiment un morceau de rap français, assez dur, assez sombre. Et il y a ce morceau DJ, il y a aussi le morceau avec China, Évasion, qui était aussi, qui était d'ailleurs un single sur cet album. Comment vous voyez ce moment où elle devient mainstream? Est-ce que, en tant qu'auditeur, en tant que producteur, c'est quelque chose qui était voulu en interne? Comment ça s'est fait, ça?
En fait, sur Brut de Femme, la conception globale de l'album est fait en studio. Donc, je crois que moi, je réalise peut-être 6 ou 7 titres sur Brut de Femme. Et à un moment, on se pose la question de savoir s'il manque pas, si c'est pas trop rap français, si c'est pas trop niche, et qu'à un moment, il y a peut-être besoin d'ouverture. Et Benjamin Soulvanich, qui à l'époque est patron du label, nous dit et nous pose la question de savoir peut-être qu'il faudrait ouvrir peut-être un peu plus. Et donc, on garde certains titres de l'album et on repart en studio pour créer des morceaux qui sont peut-être un peu plus ouverts, entre guillemets, tout en gardant bien évidemment sa plume, son identité, etc. Mais voilà, où on a des morceaux qui pourraient plus mainstream et qui pourraient toucher un autre public. Ouais. Donc en gros, il y a cette base de Brut de Femme qui est créée et on jette à peu près la moitié des morceaux et on repart en studio et on recrée ces morceaux. Et c'est à ce moment-là où il y a Évasion, où il y a DJ, où il y a tous ces titres-là qui sont recréés.
Et puisqu'on en parle, DJ, ça ressemblait à ça.
Je suis pas une bombe latine, ni une bombe platine, DJ. Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Laisse-moi kiffer, j'ai mes soucis, donc s'il te plaît, arrête. Laisse-moi kiffer la vibes avec ce que j'aime.
À ce moment-là, comment tu prends ça, toi, Attic? Le moment où elle devient mainstream, justement. Alors, t'es jeune, T'es peut-être pas encore un auditeur de rap méchant et haineux comme on l'est à l'adolescence.
Alors
mais...
déjà non, et puis surtout, moi, comme j'ai pas le passif,
ouais.
Pour moi, c'est normal. C'est ça, Diams. Et c'est après, sur Dans ma bulle, que je prends la claque. Moi, j'ai même pas la curiosité, parce que je suis un adolescent, ouais, donc ouais. Forcément, de base, je suis un peu un petit con. J'ai pas la curiosité, quand j'écoute un artiste et que j'aime bien un morceau, de me dire je vais écouter tout ce qu'il a fait. Tu vois, c'est un truc qui vient avec les années plus tard.
Ouais, bien sûr.
Et c'est vraiment Dans ma bulle où je prends la claque de me dire ok, là, il y a une plume, il y a une écriture et tout. Juste avant ça, je me dis juste le son, il m'entraîne, le son, il est stylé, le son, il est cool, tu vois. Et je suis pas en train de l'écouter en boucle H24, mais juste, j'aime bien. Mmh. Et quand je sais qu'elle va sortir un album quelques temps après, tu c'est vas à la même époque concert, que Soprano, du coup je vais l'avoir en concert, je suis fan de Sopra, je suis fan de Diams, en plus les deux ils s'aiment bien. Dans ma tête en fait, tu vois, les liens se font naturellement. Mais ouais, j'ai pas forcément de trucs où je me dis « Ah, c'est dommage, elle est devenue mainstream », tu vois.
Bon, alors sur l'album suivant, il y a Dans ma bulle, donc, il y a aussi un énorme single, je pense qu'on l'écoute, c'est le morceau qui s'appelle « La boulette ». Qui est un morceau, je trouve, qui vit extrêmement bien d'ailleurs, je le trouve toujours très efficace. T'es d'accord avec moi ou pas, Pasta?
Ouais, il vieillit bien, parce que la thématique, elle est toujours actuelle, sur notamment pas mal de punch à l'intérieur qui sont d'actualité. Dans l'art français, le piano-voix, ça a toujours fonctionné, et donc il y a ces petites notes de piano avec des drums qui sont classiques à l'intérieur. Donc je pense que le tout, entre la thématique, sa plume et les punchs du morceau qui sont toujours actuels aujourd'hui, et le piano qui revient, qui est quand même emblématique de la musique française et du rap français, je pense que tout colle pour que ça soit... Un morceau qui dure dans le temps.
Bon, on va l'écouter. La boulette de Diams, un classique, un single qui était absolument partout à l'époque et donc il y a 20 ans. 20 ans, voilà. Diams, la boulette.
Alors ouais, je me la raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets, il fait trop tard dans nos têtes. Ouais, je me la raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté, mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets,
sortez les briquets.
Y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville. Y'a comme un goût de gêne quand je parle de ma vie. Y'a comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000. Y'a comme un goût d'erreur quand je vois le tour de suicide. Me demande pas ce qu'il épouse à casser des vitrines. J'suis pas la mairie, j'suis qu'une artiste en devenir, moi. J'suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac. J'ai que le rap et je l'embarque, je l'embrasse. Je le macère, je l'embrasse. Y'a comme un goût d'attentat, comme un goût de Bertrand Cantat, comme un goût d'anthrax pendant l'entracte. Y'a comme un goût de foulec chez les mots, comme un goût de boulette sur les ondes.
Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne. Non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, génération, non. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne. Non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, génération, non.
Y'a comme un goût de viol quand tu marches dans ma ville. Y'a comme un goût d'alcool dans les locaux de police. Y'a comme un goût de peur chez les meufs de l'an 2000. Y'a comme un goût de bœuf dans l'oxygène qu'on respire. Me demande pas ce qu'il épouse à te casser les couilles. J'suis pas les secours, j'suis qu'une petite qui se débrouille, moi. J'suis qu'une boulette, me demande pas si j'aime la vie. Moi j'aime la rime et j'emmerde Marine juste parce que ça fait zizi. Y'a comme un goût de bad boy, comme un goût d'agapone, comme un goût de hardcore dans les écoles. Y'a comme un goût de foulec chez les mots, comme un goût de boulette sur les ondes.
Alors ouais, on déconne, ouais.
Dans la bouche de Sarko, comme un goût de Michto près des Mercos. Y'a comme un goût de coup dans les chambres des jeunes. Y'a comme un goût de boum boum dans le cœur de mes sœurs. Y'a comme un goût de chouï saoulé de tout ce qui se déroule. Y'a comme un goût de foulette, de boulette qui saute dans la foule.
Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne. Non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, génération, non.
Génération, non.
C'est donc La Boulette de Jams, immense tube présent sur l'album Dans ma bulle.
France Inter. Mehdi Maizi à la régulière.
On va parler bien sûr de l'album Dans ma bulle qui a rencontré un énorme succès porté entre autres par ce morceau La Boulette. Mais Bettina, ce qui est aussi intéressant, c'est que dans les années 2000, Diams, elle devient aussi autre chose. C'est-à-dire que c'est évidemment une rappeuse talentueuse, couronnée de succès, mais elle commence à représenter quelque chose, à devenir même, peut-être comme je le disais en introduction, la plus grande star musicale en tout cas du pays, à un moment pendant quelques années. Qu'est-ce qu'elle représente pour une jeunesse aussi, pour une génération Diams à ce moment-là dans les années 2000?
Bon, je pense qu'elle a marqué beaucoup de choses. D'une part, c'est vrai que c'était une rappeuse, une artiste qui parlait à plusieurs générations. Et il y avait des petites filles qui écoutaient Diams, il y avait des mamies qui écoutaient Diams. Et c'est un rap aussi qui parle beaucoup de ce qui ressentent les femmes, les jeunes femmes. Donc c'est vrai que c'est des thématiques qui a pu toucher à plusieurs générations des femmes, en fait, qui se reconnaissent dans plusieurs... En fait, qui apparaissent depuis les premiers albums et qui sont encore beaucoup plus présents dans Bruit des femmes et dans La Roulette. Ouais. Et encore aussi dans son dernier album, mais sur d'autres, sur d'autres angles. Et également, en fait, avec cet album La Boulette, Dans ma bulle, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des thématiques sociétales qui sont vraiment présentes, en fait. Un rap qui dénonce, et on pense à Ma France à moi, en fait, ces morceaux-là, il est devenu la bande son des manifestations contre les CPE en 2006, en fait. C'était vraiment... Et les morceaux Marine, qui est très fort aussi, et qui reprend un peu toute la tradition des lettres précédentes qui avaient été faites par plusieurs rappeurs, mais là,
par Fab notamment.
Mais là, c'est une femme, en fait, plus qu'une lettre, c'est une femme qui parle une autre femme, en fait, des femmes à femmes. Et ça, c'est très fort dans le Marine, en fait. Il ne lui parle pas comme à une représentante politique.
Elle parle vraiment d'une femme de sa génération.
Femme de sa génération. Et d'ailleurs, elle le dit, je pense, dans une interview, en fait, moi, ce qui m'a plus... Parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, Marine Le Pen, elle n'était pas encore présidente du Front National. C'était encore son père. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle, ça l'interpelle. Elle le dit, ça m'interpelle qu'une femme puisse porter des discours racistes, puissent avoir une pensée comme celle de Marine Le Pen. Donc, et là, ce que c'est intéressant, c'est ça, qu'elle a, c'est comme si elle s'asseyait ou lui parlait des femmes à femmes. En fait, l'idée, Marine, c'est pas possible, tu peux pas penser comme ça, etc. Bon, elle a ce morceau qui est magnifique. Donc, c'est vrai que cet album, on a toujours... peut-être une époque montrée Diams comme, une rappeuse qui parlait des choses... un peu bébête, qui à l'époque, on sait très bien que c'est des morceaux qui ont été parodiés et tout ça. Mais, je pourrais dire des choses sur ces questions-là aussi qui sont très intéressantes, mais c'est aussi une rappeuse qui parlait aussi choses...
un vrai propos,
des propos vraiment politiques et sociétales.
Ce que tu dis, c'est qu'elle a été parodiée parce qu'elle avait des singles et qu'elle est devenue pop, et que souvent, quand on devient pop, parfois, le message est un peu diffus, mais il y a toujours eu des choses dans ses albums depuis le début. Et puisque tu mentionnes Marine, on peut écouter un extrait quand même de ce morceau classique lui aussi.
Marine, pourquoi es-tu si pâle? Viens faire un tour chez nous, c'est coloré, c'est jovial. Marine, j'aimerais tellement que tu m'entendes, je veux bien être un exemple quand il s'agit de vous descendre. Marine, tu t'appelles Le Pen, n'oublie jamais que t'es le problème d'une jeunesse qui saigne. Viens, viens, allons éteindre la flamme, ne sois pas de ces fous qui défendent le diable. Marine,
on continue à parler de Diams et de l'album Dans ma bulle jusque 23h. J'aimerais aussi qu'on parle musicalement à quoi ressemble cet album. Et on parle avec tous les trois, bien sûr, mais peut-être commencer avec toi, Masta, puisque t'es dans le studio, tu produis cet album, tu te coproduis, t'es pas tout seul, mais en tout cas, tu joues un rôle très important. C'est quoi l'état d'esprit? Parce que...
En fait, on réalise avec Tofa la globalité de l'album.
Exactement.
Et on prend divers compositeurs sur lesquels on retravaille bien évidemment les prods pour que ça soit cohérent. En fait, moi, j'ai jamais été fan de composer... la globalité des titres de tout un album. Donc à chaque fois qu'on a fait des albums avec Tofa, on a toujours pris des compositeurs qui étaient avec nous, ou en tout cas des gens proches de nous. Pour
d'ailleurs,
pouvoir...
sur La Boulette, il y a Scred, qui est un producteur maintenant très connu. Et qui
Sur La Boulette, il y a Scred, mais il n'y a pas que Scred. En fait, ce qui est marrant avec La Boulette, pour revenir sur La Boulette, c'est que en fait, tu vois les studios aujourd'hui avec les conférences, avec les multiprods, etc., etc. Et ben déjà à l'époque, en fait, c'est ce qu'on avait fait. C'est-à-dire que en fait, dans la boulette, je commence la prod Et donc on bosse ça, on bosse, à l'époque il y a un clavier avec nous qui nous suit un petit peu qui s'appelle Elio, avec qui on lui donne les idées parce qu'on ne maîtrise pas l'art du piano. Et donc on commence à composer ce titre-là, et il y a Scred dans le studio, et il est en train de nous faire écouter des prods pour l'album, on écoute des trucs, et au moment où je termine la compo de la boulette, il chante un petit truc, tu vois, il a une idée de truc. Et le petit sifflet du refrain de la boulette, c'est Scred, en fait. Et donc, en gros, on se met à tout cet autour de la MPC, autour des claviers, et chacun donne des idées. Et en gros, cette prod-là, donc c'est pas juste Defa et Masta, mais il y a Scred aussi, il y a Elio dessus, et on est tous là à essayer de trouver des idées, et on compose le titre tous ensemble. Et ce qui est marrant, la petite histoire de la boulette qui est intéressante, c'est que à l'époque, j'ai toujours fait des morceaux très mélancoliques, c'est vraiment mon...
C'est aussi le rap français de cette époque, que vous incarniez, ouais.
Et donc, Mélanie, ça tourne trop en rond autour de ces titres-là, et elle a envie de s'ouvrir sur d'autres trucs. Et quand on termine le morceau, on sait que ça va être un tube. Parce que la prod fait que... On sait qu'elle, elle va écrire dessus, elle va faire le taf. Okay, mais on sait déjà que la prod en elle-même, ça va être un gros hit. Et donc, pour la mettre dans un mood, parce qu'on se faisait pas mal de blagues avec plein de gens qui passaient en studio, etc. Et au moment où moi, je commence à la compo du titre, Mélanie, elle part parce qu'elle a des rendez-vous. Et donc, avec Tefa, à la fin de la compo du titre, on est avec Elio, et donc, il joue des trucs au clavier. On dit, vas-y, viens, on lui fait une blague et tout. Viens, on fait comme si le morceau, ça allait être genre un morceau archi mélancolique, triste, où tout le monde va pleurer. Et en fait, c'est pour ça que l'intro
ça commence comme
de
ça.
La boulette commence comme ça. Parce qu'en fait, quand elle arrive et qu'on met play sur le date, le lendemain, quand elle revient pour écouter, on lui dit, oh, elle en a un morceau de ouf et tout, écoute. Et quand elle entend l'intro, elle dit, hey, mais les mecs, vous avez recommencé encore avec vos morceaux tristes. Ça y est, c'est bon. Et après, quand le piano il part, et je crois elle a plié le texte en 2 heures, 3 heures, et après, voilà, l'histoire fait le reste, en fait.
Et c'est ce qu'on disait quand on écoutait le morceau, c'est que c'est un tube, mais c'est vraiment un morceau de rap. C'est-à-dire que les couplets sont rappés, elle dit des choses, elle dénonce des choses, il n'y a pas de compromis dans ce morceau, en fait. Attic, bon, toi, c'est vraiment à ce moment-là que tu... pas découvre, mais en tout cas que tu te prends aussi, je pense, d'affection.
Comme disent les jeunes, je monte dans le train.
Tu montes dans le train avec Dans ma bulle. Qu'est-ce qui représente à l'époque et encore aujourd'hui pour toi cet album qui est à la fois un classique, mais qui est aussi surtout, enfin pas surtout, mais un raz-de-marée commercial. Qu'est-ce qui représente pourtant en tant qu'auditeur à cette époque-là? Et qu'est-ce qui te plaît autant chez Diams?
Bon, déjà, pour moi, c'est le plus grand album de rap français de mon esprit, de ma vie, même si je sais que c'est quelque chose de très subjectif. Pour moi, c'est mon album préféré de tous les temps.
À la question que je pose souvent, quel est le plus grand album de rap français dans cette émission?
Ouais, c'est ça.
Toi, tu dis Dans ma bulle.
Bah, en fait, c'est l'album que j'ai le plus écouté.
Ouais.
C'est ça. Et Puisqu'il faut vivre de Soprano. Parce que c'est les deux albums qui m'ont façonné, construit en tant que jeune adolescent qui savait pas pourquoi il avait des problèmes dans sa vie alors qu'en fait, il en avait pas beaucoup. Mais il a l'impression de se sentir écouté. Donc, en fait, c'est ça. Moi, je suis l'aîné d'une fratrie de trois. Et j'ai eu l'impression, quand j'écoutais cet album, d'avoir quelqu'un à qui je pouvais parler, qui pouvait m'écouter et qui pensait les mêmes choses que moi.
En fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est l'image que les gens ont de Mélanie et le fait de tu vois, la première fois où on a fait un gros concert avec Diams et que j'ai entendu les gens qui l'appelaient plus, non, par Diams,
par Mélanie.
Mais par Mélanie. C'est là où tu dis, ça y est, elle a réussi, en fait. Elle a capté les gens, et en fait, c'est comme si c'était ta pote.
Ouais.
Comme si c'était ta petite sœur, ta grande sœur, ta maman pour les petits, etc., etc. Et ce truc-là, cette aura qu'elle a eue autour d'elle pendant toute sa carrière, et le fait de fédérer autour d'elle, un, par ses textes, deux, par ses prises de position, et trois, par ce qu'elle est humainement, et ce qu'elle représente, c'est là où ce que tu dis, ça a du sens, en fait.
Bah ouais, enfin, tu vois, j'ai pas eu beaucoup de gens à qui parler dans ma vie. J'avais des oncles, etc., mais qui avaient à peu près le même âge qu'elle, d'ailleurs. Mais Mélanie, moi, ça a toujours été ça. Cet album, j'y reviens constamment depuis 20 ans maintenant. Je me rends compte que je connais toujours par cœur Petite Banlieusarde.
Ouais.
Parce que j'étais un petit banlieusard. Que, en fait, autant ça m'a énormément touché à l'époque, autant avec les années, j'ai appris à comprendre certains textes, certains morceaux, certaines choses. Et Par exemple, un morceau comme TS, aujourd'hui, c'est un morceau qui me brise le cœur, mais d'une manière différente de comment il me brisait le cœur à l'époque, tu vois. Ouais. Par amour, pareil.
Oui, parce que t'es adulte et que t'as.
Voilà, c'est fou d'avoir. Je pense qu'on a tous des albums pour lesquels on a une compréhension différente au fil des années et au fil de revenir dessus à chaque fois. Donc, ouais, c'est ça, quoi. C'est la grande sœur. Qui après est devenue une vraie grande sœur dans ma vie, tu vois.
Oui, mais parce que maintenant vous connaissez bien ça.
Voilà, mais.
Et tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le temps fait que, en fait, tu t'arrives à te rendre compte si un album est classique et s'il fédère avec l'âge. Et au final, les thématiques qui sont abordées dans l'album, aussi bien même au niveau de Marine, avec les positions de Jordan Bardella aujourd'hui, etc., tu sens que, en fait, ça a pas pris une ride.
Malheureusement, oui.
Malheureusement. Et en gros, elle était dedans et pourquoi l'album a connu un tel succès, c'est parce que ça parlait justement à cette France-là. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, on est encore dans les mêmes problèmes sociétals et cet album-là est encore effectif là-dessus, en fait.
Et je pense qu'une des raisons aussi du fait que ça marche, ça a autant marché et que ça continue à marcher, c'est la production aussi. Parce que tu parlais de piano, etc. C'est aussi un album qui est très piano-voix, et je pense que c'est aussi quelque chose avec lequel le public français est très sensible.
Mais en fait, avec cet album-là, on sort de... je me souviens, en fait, quand on a conceptualisé l'album, parce qu'on a commencé vraiment entre nous, avec Mélanie et Teufa, et après, on a commencé à aller au studio, on a tout enregistré et record à Davout, qui est un studio qui existe plus, qui était à Porte de Montreuil à l'époque. En gros, on sort de Chronique 2001 en termes de son. Et en fait,
de Dr. Dre.
Ouais. Et je regardais pas mal de vidéos à l'époque de comment il a conceptualisé Chronique 2001. Et j'ai essayé de comprendre comment il arrivait à faire péter les drums comme ça et que ça sonne très hip-hop, mais avec des jeux de musiciens. Et en fait, j'ai vite compris que il ressemblait. L'intégralité de ce qui était joué, aussi bien les pianos que les basses, que les drums, il faisait jouer un mec 50 fois une caisse claire,
ouais.
Il prenait le son et après il le passait dans MPC, SP12, ce que tu veux, en tout cas tous les trucs qui pouvaient donner ce grain-là, et c'est ce qu'on a fait en fait sur l'album. On a fait jouer beaucoup de musiciens, il y a beaucoup de violonistes, de guitaristes, de bassistes qui sont venus dans le studio pour jouer, et à chaque fois, moi, je faisais des boucles, et je reprenais, je les passais dans les machines, ce qui fait que ça sonne hip-hop, ok, mais ça sonne large, parce que c'est joué, en fait.
Tu vois, je propose qu'on le montre tout de suite avec le morceau que tu citais, Bettina, c'est Ma France à moi, donc extrait de cet album Dans ma bulle, classique, toujours un classique, 20 ans après.
Ah ouais.
Ouais, ouais. Ma France à moi de Diams, on s'écoute ça, et on continue de parler de Diams et de cet album juste après.
Ma France à moi, elle parle fort, elle vit à bout de rêve, elle vit en groupe, parle de bled et déteste les règles. Elle sèche les cours le plus souvent pour ne rien foutre, elle joue au foot sous le soleil, souvent du coca dans la gourde. C'est le hip-hop qui la fait danser sur les pistes, parfois elle kiffe un peu de rock, ouais si la mélodie est triste. Elle fume des clopes et un peu de shit, mais jamais de drogue dure, héroïne, cocaïne et crack égale ordure. Souvent en guerre contre les administrations, leurs BEP mécaniques ne permettront pas d'être patron alors. Elle se démène et vend de la merde à des bourges, mais la merde ça ramène à la mère un peu de bouffe, ouais. Parce que la famille c'est l'amour et que l'amour se fait rare. Elle se bat tant bien que mal pour les mettre à l'écart. Elle a des valeurs, des principes et des codes. Elle se couche à l'heure du coq car elle passe toutes ses nuits au phone. Elle paraît feignante mais dans le fond elle perd pas de temps. Certains la craignent car les médias s'acharnent à faire d'elle une cancre. Et si ma France à moi se valorise, c'est bien sûr pour mieux régner. Elle s'intériorise et s'interdit de saigner. Non, c'est pas ma France à moi cette France profonde, celle qui me fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi cette France profonde, celle qui me fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. Ma France à moi, elle parle en SMS, travaille par MSN, se réconcilie en mail et se rencontre en MMS, elle. Se déplace en skate, en scoot ou en bolide. Basile Boli est un mythe et Zinedine sont synonymes, elle. Il faut pas croire qu'on la déteste, mais elle nous ment, car nos parents travaillent depuis 20 ans pour le même montant. Elle nous a donné des ailes, mais le ciel est VIP, peu importe ce qu'ils disent. Elle sait gérer une entreprise, elle vit vie à l'heure américaine. KFC, MTV, Base, Footlocker, McDo et 50 Cent. Elle, c'est les petits mecs qui jouent au basket à pas d'heure, qui rêvent d'être Tony Parker sur le parquet des Spurs. Elle, c'est les petites femmes qui se débrouillent entre l'amour, les cours et les embrouilles, qui écoutent du rail, R&B et du zouk. Ma France à moi, elle se mélange. Ouais, c'est un arc-en-ciel, elle te dérange, je le sais, car elle ne te veut pas pour modèle.
Non, c'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre.
Ma France à moi, elle a des halls et des chambres où elle s'enferme. Elle est drôle et Jamel Debbouze pourrait être son frère. Elle repeint les murs et les trains parce qu'ils sont ternes. Elle se plaît à foutre la merde car on la pousse à ne rien faire. Elle a besoin de sport et de danse pour évacuer. Elle va au bout de ses folies au risque de se tuer. Mais ma France à moi, elle vit, au moins elle ouvre, au moins elle rit. Elle refuse de se soumettre à cette France qui voudrait qu'on bouge. Ma France à moi, c'est pas la leur. Celle qui va d'extrême, celle qui bannit les jeunes anti-rap sur la FM, celle qui se croit au Texas, celle qui a peur de nos bandes, celle qui vénère Sarko, intolérante et gênante, celle qui regarde l'UNESCO et regrette le temps des choristes qui laisse crever les pauvres et met ses propres parents à l'hospice. Non, ma France à moi, c'est pas la leur qui fête le Beaujolais, qui prétend s'être fait baisser par l'arrivée des immigrés, celle qui pue le racisme mais qui fait semblant d'être ouverte, cette France hypocrite qui est peut-être sous ma fenêtre. Celle qui pense que la police a toujours bien fait son travail, celle qui se gratte les couilles à table en regardant l'orangéane. C'est pas ma France à moi, cette France profonde. Alors peut-être qu'on dérange, mais nos valeurs vaincront. Et si on est des citoyens, alors aux armes la jeunesse. Ma France à moi leur tiendra tête jusqu'à ce qu'ils nous respectent.
C'était Ma France à moi de Diams, et je peux vous le dire, vous l'affirmer, Attic connaît les paroles par cœur.
France Inter, Mehdi Maizi. Régulière.
Dans mes rêves, mon mec m'enlève et m'emmène. Bam, 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 bam. Si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un mec qui pourra me donner des ailes. Un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email.
Autre énorme tube présent sur ce disque, Jeune Demoiselle donc de Diams. Et Bettina, je pense qu'il faut aussi qu'on... Enfin, il y a plein de sujets abordés quand on parle de Diams. Mais évidemment, il y a un sujet quand même important, c'est quand même effectivement le fait que bah, ce soit une femme dans un milieu qui, à l'époque, et même c'est encore le cas aujourd'hui, est quand même majoritairement masculin. Donc elle représente aussi quelque chose forcément pour les jeunes femmes, pour les rappeuses. Et d'ailleurs, c'est même presque un fardeau, j'ai l'impression même parfois pour des jeunes rappeuses aujourd'hui, parce que souvent... dès qu'on voit une rappeuse, on va la comparer à Diams, ce qui est complètement injuste, puisque Diams est arrivé à un niveau même que peu de rappeurs hommes sont allés. Donc c'est toujours
Zidane.
Exactement.
C'est
fait.
Cuf, tu vois.
Mais c'est comme si, ouais, mais c'est comme si on comparait tous les jeunes rappeurs français à Booba. Tu sais, en fait, ou à... enfin, c'est injuste. Mais Diams, effectivement, à chaque fois, on ramène toutes les jeunes artistes à Diams, sûrement aussi parce qu'elle a atteint un niveau assez fou. Qu'est-ce qu'elle représente aussi même pour le rap français en tant que femme à cette époque-là, qui s'impose dans un milieu qui est masculin.
Oui, bon, c'est vrai qu'elle arrive à s'imposer avec des thématiques qu'on peut dire a priori qui restaient quand même assez originales à l'époque, mais qui étaient déjà traitées par d'autres rappeuses depuis les années 90. Et, sauf que bon, Diams, elle a bénéficié d'une grande notoriété vraiment à ces moments-là. Bah, on n'entendait presque plus Lady Lestique, bon, qui n'avait quand même pas eu...
Le même succès.
Il y avait Princesse Agnès aussi à l'époque des Diams. Mais c'est vrai qu'il y a ces thématiques, et finalement, c'est des thématiques assez simples qu'elle traite de la condition des femmes, en fait, comme là on les voit dans ces morceaux, où juste qu'elle cherche un mec mortel. Bon, voilà, la recherche de l'amour. Elle parle. Bah, dans ces morceaux, c'est vraiment des sujets qui reviennent beaucoup, en fait, cette attente des femmes à rencontrer l'homme. Idéal d'un certain côté, l'infidélité, c'est vraiment des thématiques qui reviennent beaucoup, les chagrins d'amour, les malheurs, en fait, même l'arrivée au suicide d'une femme parce que son mec l'a quittée. Donc, c'est vrai que c'est des thématiques qui finalement font partie de la vie quotidienne de n'importe quelle femme et des hommes aussi,
mais elle va parler
d'un point de vue féminin.
Et puis elle ramène une vulnérabilité. À l'époque, dans l'art français, même s'il y a sûrement des hommes qui souffrent, on le dit assez peu dans le rap à l'époque.
Ça,
elle parle de vulnérabilité, de moments compliqués.
Elle parle de cette vulnérabilité. Et quelque chose qui est très intéressant, c'est que, c'est vrai que ça fait plaisir d'entendre parler d'un rappeur qui disait qu'à leur époque, elle coûtait diams, c'est que ça les avait marqué, tout ça, parce que moi, ça m'est arrivé de rencontrer et des mecs qui écoutaient beaucoup de rap de l'époque, même qui étaient plutôt façonnés du rap des années 90, et qui me disaient, en fait, Diams, j'avais du mal. Mmh. Et même, parfois, ils disaient, en fait, j'aimais Diams. C'est vrai que j'aimais Diams parce que je la trouvais très forte et tout, mais j'avais honte de le dire autour de moi. Et pourquoi parce que c'est vrai qu'il y avait des thématiques qui pouvaient sembler très, très bêtes, en fait, et ça reprend un peu les discours des hommes assez régulièrement, malheureusement, surtout à l'époque, de trouver que les conversations qui ont les femmes, c'est des conversations ridicules, bêtes, qui ne méritent pas la peine d'être racontées. Je l'ai dit juste comme ça, mais par exemple, je pense à Confession Nocturne,
qui est un morceau qui a été extrêmement parodié.
D'ailleurs, la parodie, elle est géniale. Moi, je l'aime beaucoup. C'est pas ça, il y a de l'autodérision et tout ça. Mais finalement, c'est quoi qu'on parodie ? En fait, c'est un peu ces côtés fragiles ou masculins aussi d'une femme. Voilà, c'est toujours des thématiques que si on les observe avec un regard...
Le positionnement des mecs dans le rap à l'époque, tu vois, pour te dire, en fait, pour recentrer le débat, en gros... à l'époque, quand Mélanie gagne tout ce qu'elle doit gagner, il y a des mecs qui la sifflent. C'était dans quel truc. Il y a une remise de
les trophées du hip-hop.
Ça, tout à fait. Et donc tout le monde siffle quand elle arrive, etc. Il faut recentrer le truc.
Oui, comme si c'était Fatal Bazooka, en fait. Comme si c'était une parodie.
En fait, il faut juste recentrer le truc. Un, elle a fait un morceau qui s'appelle Mon Répertoire, où elle cite tous les mecs.
Présent sur le bout de femme, morceau extraordinaire.
Voilà, où elle cite déjà tous les mecs qui sont en place, tous les rappeurs et tous les mecs en devenir. Ok. Deuxième chose, il y a un truc qui est très important, c'est qu'en termes de prestations, Mélanie, elle est hors norme. Je vais te donner un petit truc qui s'est passé quand on a fait la promo de Mission Suicide à l'époque, donc 2001.
Avant que ce soit une star.
2001, ok. Donc on part en promo sur Mission Suicide. Sur Mission Suicide, il y a tous les artistes, donc La Complice sort en 2001, il y a tous les artistes en devenir qui ont fait toutes les années de 2000 à 2010. T'as du Rof, t'as du Pete Bacardi, t'as du Tandem, t'as du Cynic, t'as du Diam, t'as tout le monde. Tous les mecs qui vont être en devenir. Et donc, on part en promo. Ok, on part en promo radio. Et donc, quand on arrive en promo radio, on vient, donc Teufa et moi, et on ramène à chaque fois 4-5 rappeurs pour freestyler à la fin, ce qui se faisait beaucoup dans les émissions radio. Et donc, les mecs performaient à la fin. Ok, donc on ramène, ok, Eben, on ramène Dadou, qui à l'époque est chaud.
Très chaud.
Tunisiano, ok.
Sniper,
ok. Et on ramène Socrate, McTyre, Tandem, ok. Un petit casting,
ouais.
Très
petit
intéressant.
Casting de rappeur français.
Ok, maintenant écoute bien. Donc, t'as un vrai casting, ouais. Ok. Mélanie était obligée de rapper en dernier sur toutes les prestations parce qu'elle était tellement forte en freestyle qu'elle éteignait tous les mecs qui étaient là. Et tu demandes à Socrate, demain, il va dire la même chose. Tu demanderas à Eben, tu demandes à Dadou, et tu demandes à Bachir, Tunisiano. Ouais. Okay, ils vont tous te dire la même chose. Elle écrivait sur chaque émission radio un freestyle différent. Ça veut dire qu'elle arrivait...
Elle n'avait pas recraché un couplet qui était déjà connu.
Elle écrivait pour la radio. Hein. Deux, en termes de perf, en termes d'attitude, elle était incroyable. Et ses couplets, ils étaient tellement performants qu'elle était obligée de rapper à la fin. Comme les couplets de Busta Rhymes quand il rappait dans les années 90, où t'étais obligé de le mettre à la fin. Pourquoi ? Parce qu'il éteignait tellement tout le monde qu'après, ça n'avait plus de sens d'écouter la suite. Donc, il y a ce truc de jalousie. Un, pourquoi ? Parce que c'est une meuf, ok ? Et à l'époque, il y a beaucoup de misogynie dans le rap français. Et deux, c'est qu'elle est meilleure que les meilleurs des rappeurs français. Donc à un moment, ça crée ce que vous disiez tout à l'heure, en fait.
Juste pour répondre, en fait, elle est meilleure que les meilleurs des rappeurs français à parlant des choses qui ne font pas partie du
spectre normal. Ouais.
Voilà, et d'ailleurs, elle dit dans son morceau, moi aussi, je sais parler cul, moi aussi, je peux parler des culs, mais elle choisit de faire un autre rap qui parle, en fait, de ses entrailles, de ce qu'elle a à l'intérieur. Et là, juste pour répondre avec la question de ce qu'ils ressentent aujourd'hui, peuvent ressentir aujourd'hui la rappeuse par rapport à Diams, c'est vrai qu'on attend toujours, je pense, et là, malheureusement, c'est vrai, on attend toujours des femmes qui rappent, et une sorte de position, de positionnement féministe d'un certain côté. Et comme si on ne pouvait pas parler des choses qui n'ont... Et voilà. Et dans le cas de Diams, moi, ce qui me semble intéressant, c'est que je pense que ce n'est pas du tout dans ses propos d'être féministe ou quoi que ce soit, mais elle parle malgré ça des sentiments et des positionnements des femmes. Et c'est ça ce que je trouve très intéressant. Ça veut dire qu'elle a laissé une trace de ce qui ressent une femme des années 2000.
Ouais.
Et ça, je pense que ça a énormément de valeur.
Absolument. Et pour revenir aussi sur ce qu'on disait sur son talent en tant que rappeuse, le fait qu'elle était toujours au point. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que chaque fois, elle venait sur des compilations, plus ou moins cotées, et elle achetait à chaque fois des couplets exceptionnels. Et moi, il y a une compilation qui m'a beaucoup marqué quand j'étais adolescent, c'est Street Lourd, volume 1. Il y avait un morceau avec Kennedy qui s'appelait « Parce que le monde ». Et je veux juste qu'on écoute un extrait de ce morceau parce qu'elle est phénoménale dessus.
Ouais. Si le monde change, mais bienvenue dans ma sphère. Où les femmes savent se tenir, ça laisse crête pour pas se perdre. Merde, dis-moi pourquoi j'ai mal quand tout va bien. Tu sais pourquoi je suis hâle, parce que je tape quand tu fais rien. Je te l'ai dit, le monde change, mais bienvenue dans ma sphère.
Où les hommes savent braquer, se taper pour pas se perdre.
Merde, dis-moi pourquoi j'ai mal quand tout va bien. Tu sais pourquoi je suis hâle, parce que je tape quand tu fais rien.
Je vis dangereusement, toujours au B, quand le monde géchant, là où les jeunes ont tous des chats rasés sur leur fond d'écran. Et
c'est pas... Ça, c'est vraiment les années 2000. Mais c'est aussi intéressant parce que James, on parle de beaucoup de choses, de effectivement son propos, le fait qu'elle soit engagée, le fait qu'elle incarne plein de choses. Mais techniquement, elle était impressionnante, vraiment. Si toi, Attic, qui est un rappeur...
Moi, pour moi, en fait, c'est juste de la versatilité. C'est-à-dire que la meuf, elle est capable d'aller chanter devant Nikos Aliagas et de faire bouger la France.
Ouais.
Et en même temps, elle peut aller dans le bendo, même si on disait pas le bendo à l'époque, on disait la Tess, tu vois. Ouais. Elle est capable d'aller dans des quartiers, faire des clips, rapper dans des plateaux, freestyle, tout ça.
Exactement.
Tu vois.
Exactement.
Et en fait, cette versatilité-là, pour moi, c'est l'atout principal de Mélanie avec sa capacité à être à la fois dans de l'ego trip, tu vois, elle a un morceau avec Jackie. Cause à effet sur dans ma bulle.
Ouais.
C'est de l'ego trip.
Me revoilà, pardon. Complètement de l'ego trip, absolument.
C'est de l'ego trip.
Ouais.
Et dans le même album, elle passe de Par amour à ça, en passant par Ma France à moi, Marine. En fait, tu as vu son spectre à elle, il est large.
Ouais, très large.
Et là où à l'époque, je trouve que le rap français était pas très large, elle a su imposer cette largeur et surtout c'était plutôt naturel, j'ai l'impression, alors que. Tu vois, il y avait ces discussions où tu avais à l'époque les patrons de Major qui venaient, les DA qui disaient « Ouais, il faut que tu sois plus ouvert, essaye de faire un morceau. » Et en fait, ça faisait un propos un peu plus édulcoré pour des gens pour qui c'était pas naturel. DJ, c'est peut-être un des premiers hits de rap français où tu as une meuf qui va rapper et chanter sur le refrain. Mmh. Et c'est pas ridicule et c'est fait plutôt naturellement. Alors, bien sûr, tu disais que Benjamin Chulvani, j'avais suggéré l'idée de faire ça. Mais peut-être qu'elle, il a mal vieilli dans son esprit. Bon, de toute façon, tout a mal vieilli dans son esprit, hein, mais on est d'accord là-dessus. Mais tu vois, c'est un morceau qui, aujourd'hui, on peut l'écouter. Et on ne se dit pas qu'il est ridicule ou un peu, tu vois, édulcoré ou quoi. Et il y a ce truc-là qui était très fort parce que techniquement, moi, j'aurais pas aimé me retrouver en face d'elle dans un freestyle.
Ouais.
Et en même temps, elle avait cette plume, ce truc qui est capable de toucher n'importe qui.
Pardon pour la question un peu évidente, mais t'es aussi là. Est-ce que tu parles de chanter devant Nikos Aliagas et en même temps d'être capable de sortir un gros freestyle?
Oui, oui, Diam, c'est mon blueprint, exactement.
Voilà. C'est la question, je sais pas.
Bah non, mais Mélanie est mon blueprint, je t'ai parlé de Mélanie et Soprano.
Non, parce que c'est un peu ça, effectivement. Oui.
Je t'ai parlé de Mélanie et Soprano,
on sait tous les deux.
Je t'ai pas parlé de.
Oui, d'autres gens qui vont.
D'autres gens que j'ai beaucoup écoutés. Tu vois, là, par exemple, il y avait Kennedy. J'aime trop Kennedy.
Ouais.
J'ai adoré Kennedy.
Bien sûr.
Mais sauf que moi, dans mon blueprint, dans ce qui m'a le plus touché, dans ce qui m'a le plus façonné en tant que jeune adolescent qui un jour se dit « je veux rapper », etc., etc., bah c'est ça en fait, c'est de voir une personne qui est capable d'être un peu partout. Bah après, on dit souvent que quand t'es un peu partout, t'es nulle part. Bah elle était partout et
elle était partout, quoi.
Tu vois, c'était fort.
Ouais, donc, Bon, je pense qu'on écoute un morceau qui n'est pas extrait de Dans ma bulle, mais qui est extrait de Brut de femme, qui est un album que j'aime beaucoup. Et je voulais qu'on écoute un morceau vraiment, mais qui est exceptionnel. Le réécouter m'a fait beaucoup de plaisir avant l'émission. C'est le morceau Madame Key, qui est écrit par Lino, qui était vraiment une collaboration. Et on sent d'ailleurs la plume de Lino. Il y avait vraiment. Tu parlais du morceau Mon répertoire. On sent que quand elle travaille avec Lino, il y a une forme d'hommage. Enfin, elle sait qui est Lino. En même temps, Lino sait qui est James. Et du coup, ça crée vraiment un morceau qui est exceptionnel, où Lino écrit pour elle. Et c'est phénoménal. On s'écoute ça. Donc, Madame Key, présent sur l'album Brut de femme, qui est un gros disque aussi, très gros disque, mais on est là pour parler Dans ma bulle.
Sandwich entre blocs de béton et d'œuf. J'ai ce qui tient à cœur et comme dans le projet de Blair Witch, tu sais pas d'où vient le danger, genre Nietzsche. J'fais ma philo rangée sur un beat rap, donne un stylo que j'fume leur truc trop kitsch au kilo. J'ai de la rime, j'suis debout, cerné par les flammes. Dieu a planqué la foule dans un bout de femme. Parfois j'ai trop mal, mais ça me rassure, y'a que les vivants qui souffrent. J'kick mon rap et crée des ouragans avec mon souffle. Le talent n'a pas de sexe, ni de mélanine, tant pis si ça me vexe. Condemne si j't'envoie le baiser de Mélanie et Steak. Mes manies, mes rêves, et quand je manie le micro, la mie, je suis réel, des ovaires jusqu'aux canines. Je veux pas de couronne, je veux juste rendre fier la daronne. Diam, sans comment faire du rap d'enfoiré sans testostérone. Celle qui excelle, mon rap, ton exil. Je lance une rime frappe qui veut me couper les ailes. Imprime mon blaze, mon disque, ma renaissance. J'ai le flow mic, je suis un incendie qui se défonce à l'essence. Remarque, j'ai le sens du rythme pour une bave. Ressens ce truc, j'ai même du style en rap. Du sens et de la forme dans mes syllabes et mes chants, mec. Un méchant flow en norme, ces chants les putes en live de mon lab. J'ai un penchant pour les sons lourds et quand les flingues crient, les tigres en colère sont plus sages que les chevaux instruits. Je suis libre sur l'instru, je vibre dès l'intro. J'ai la fibre lyricale et pour une femme de mon calibre, ils disent c'est trop cru, y'a trop de venin dans le poème. Je réponds, je suis entière dans ma psyché et encore plus quand j'aime. Je veux toujours pas de couronne, juste rendre fier la daronne. Diam, comment faire du rap sans foi et sans testostérone. Encore au B à 3, j'arrive au couplet 3. Je viens découper du verre dans ce move devenu trop étroit. Serbe comme le plomb de Détroit, gerbe les mots, marrage à croix. Pour être honnête, je serai jamais hors sur MP3. Donc get les bacs et mets-toi. Bien ça brûle si t'y crois. Je pose une bombe et je kiffe ma race sur le toit du monde. Ex-froid, changé en fond. Je griffe les ondes et me sauve. Prends les bifons et dans la gauve, mon son de cheat. Dehors les balles sifflent, le vrai même dans mes fictions. Nocifs parfois se pisent, assassinent mes convictions. Donc je prends le mal à la racine et soigne ma diction. Fascine les gosses et mon scud fait mentir tes prédictions. Je suis debout, cerné par les flammes. Dieu a planqué la foudre dans un bout de femme. Je veux pas ta couronne, juste rendre fier la daronne. Diam, sans comment faire du rap sans foi et sans testostérone.
Madame Key, donc, de James, présent sur Brut de Femme. Voilà, moi, quand il y a une voix pitchée, je suis fan.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Avant d'écouter ce morceau, Attic disait quelque chose d'intéressant. C'est effectivement le fait que James touchait vraiment toute la France, à la fois le mainstream et en même temps un rap plus underground. Est-ce que, Masta, toi qui étais là quand cet album a été fait, est-ce que c'était une volonté, est-ce que c'était conscient, ça, d'arriver à faire ce grand écart-là et de le faire bien? Est-ce que vous aviez l'envie?
Sur Dans ma bulle, tu parles?
Sur Dans ma bulle, ouais, ouais, tout à fait.
Alors attends, d'avant, je voudrais revenir à un truc là sur le morceau qu'on vient d'écouter. Ouais. Quand le numéro 1 du rap français rencontre la numéro 1 du rap français, Lino, meilleur rappeur all time, Mélanie, meilleure rappeuse all time. Voilà, ça donne un morceau comme ça sur une prod de Jimmy Finger.
J'aime bien. Franchement, si tu veux me couper pour ce genre de choses, coupe-moi.
Merci.
Voilà, pour ce genre de tech, j'adore, il n'y a pas de problème. Okay. Pas de problème. Et du coup, sur Dans ma bulle, ouais.
Alors, sur Dans ma bulle, contrairement à Brut de Femme, on était vraiment enfermés en studio, et il n'y avait aucun impact, de la maison de disques. Tu vois, il y a une histoire marrante, c'est qu'à un moment, Benjamin dit « Ouais, il manque Benjamin des trucs. » Il revient encore sur... c'est mon pote, hein, grave, hein, mais voilà, en termes de business et de trucs, on était comme chien et chat. Et parce que moi, en gros, en tant que réalisateur et compositeur, moi, je cherche l'artistique et à pousser mon artiste quand je suis en studio avec Mel. On éteint les lumières, je suis derrière la cabine, il n'y a plus d'ingé. Il y a juste moi qui record et elle, elle derrière le micro. Donc, on est dans un truc où l'artistique, c'est super important pour nous. Et on se dit qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin, comme à l'époque de Brut de Femme, d'avoir un truc qui ouvre, puisqu'on a déjà ouvert. Et donc, on se concentre sur l'artistique et sur le fait d'avoir quelque chose de cohérent artistiquement du début de A à Z. Et donc, Benjamin, à un moment, nous dit « Oui, mais les mecs, il n'y a pas de truc, nanana. » Et on a cut les studios. Et c'est marrant parce qu'avec Mélanie, on était vraiment en équipe. Et donc, quand on a dit... Moi, j'ai dit à Ben, j'ai dit « Ok, bah, c'est pas grave. Viens, on éteint tous les studios et il n'y a plus personne qui travaille. Ouais, mais Mélanie, elle va travailler avec personne d'autre. Ok ? On va arrêter, on va aller manger au McDo, ok ? Et quand tu auras réfléchi à ce que tu nous as dit, tu nous rappelleras. Et deux heures après, il a dit, bon, vas-y les mecs, ah, c'est bon, allez, truc. Et donc, tout ça pour dire qu'en fait, dans cet album-là, il n'y a aucune volonté de vouloir ouvrir. C'est-à-dire qu'on est dedans, on sait ce qu'on doit faire, Mélanie, elle a sa vision, Tofa et moi, on a la nôtre, ok ? Et on est en symbiose. Et on est H24 ensemble. Quand on sort du studio, elle vient manger à la maison, je vais chez elle, etc. etc. Et donc, il y a ce truc de fusionnalité et de quand elle est dans la cabine. Et j'avais un truc qui était assez impactant, notamment pour l'interprétation sur certains titres. C'est que il y avait des fois où j'avais un jeu un peu stupide où j'arrêtais à chaque fois qu'elle faisait deux mots, trois mots, quatre mots, cinq mots. Ok, une phrase, non, on refait, non, on refait, non, on refait, non, on refait. Et à un moment, il y a les larmes qui montent quand t'es un artiste. Tu te dis, oh, attends, mais il veut quoi en fait ? Il cherche quoi en fait ?
Il me pousse à bout là, ouais.
Il me pousse à bout. Et donc, en fait, il y a des titres où j'avais besoin d'une interprétation, où j'avais besoin d'avoir des sanglots dans la voix qu'on peut pas avoir réellement. Et en gros, je l'avais comme ça, on éteignait les lumières et je la faisais craquer et elle pleurait limite. Et après, dans l'interprétation, elle avait le truc de haine qu'elle avait contre moi parce que je l'avais arrêté 50 fois, mais ça se retentait dans l'interprétation. Et c'est ça qui fait aussi la différence de Mélanie. C'est que, un, elle rappe bien, deux, techniquement, elle est forte, trois, elle écrit bien, et elle a une interprétation hors pair.
T'as raison, on ne l'a pas dit, et t'as raison, c'est très important. D'ailleurs, t'as cité Soprano, je trouve que Soprano avait aussi ça, et c'était deux des rappeurs, enfin, des seuls artistes rap qui avaient ce côté vraiment d'interpréter leur texte.
Ils vivent le texte.
Leur morceau, exactement. Ouais. Ce qui est très, très rare hein, dans cette musique-là, globalement, parfois.
Medine l'a un peu sur certains titres, sur Les Enfants du Destin.
Tout à fait, Attic aussi, là.
Je recommande juste le documentaire qui est avec l'album Dans ma bulle. Il y a un documentaire qui a été fait. Je ne sais pas s'il est encore trouvable aujourd'hui quand on achète le CD en physique, mais en tout cas, il y avait un documentaire à l'époque.
Un DVD,
voilà, ça, c'est...
Ouais.
C'est incroyable. Il y a même des petites pépites à un moment donné. Il y a un morceau piano-voix qui, je crois, n'est jamais sorti dedans, où elle joue au piano et elle fait le morceau. Voilà, c'est juste pour ce que raconte Insta. Ah ouais. Du coup, c'est très intéressant de voir ça.
Rapidement, c'est l'heure de la question qui tue. Voilà, rapidement. On a très peu de temps, une minute. Quel est pour vous le morceau emblématique de Diams ?
Si c'était le dernier.
Voilà.
Plus grand morceau de rap français de l'histoire, ever.
Ok.
Pourquoi il a répondu à un moment ? J'allais parler en fait.
Bah non, mais c'est pour vous tous.
Ah, je crois que c'était à moi que tu posais la question.
Non, c'est pour vous tous la question.
Non, parce qu'en fait, j'ai dit si c'était le dernier, mais.
Ah, donc tu es d'accord avec lui ?
Ouais, bien sûr.
Ah, toi aussi ?
Non, non, pour moi, la boulette.
La boulette, ok. Très bien. Bon, merci. Ben, on est d'accord en tout cas. C'est le dernier. Plus grand morceau de rap français de l'histoire.
Ah oui, sans aucun doute. Ouais.
De rap français de l'histoire, je sais pas, mais en tout cas de Diams, oui.
De Diams, oui.
Ouais, okay. Non, j'avais compris, mais lui, tu sais, il adore exagérer. C'est ça que j'aime, tu vois, je le pousse un peu, et puis ça y est.
Ah, moi, je te le dis, moi, j'ai longuement réfléchi. C'est ça, et juste en dessus, à Demain, c'est loin, mais ouais.
Ok, et au-dessus de Demain, c'est loin.
Ah bah, en fait, dans ce que ça raconte, pour moi, c'est plus intense que Demain, c'est loin.
Ok.
Mais
bon, on parle de deux
monuments.
Évidemment, deux monuments.
Il y a plus de fond dans Si c'était le dernier, je suis d'accord avec toi.
Bon, écoutez, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui, vraiment, tous les trois. C'est évidemment trop court, on aurait pu parler de Diams pendant des heures, mais merci en tout cas d'avoir été là. Merci beaucoup, Bettina Gio.
Merci.
Merci beaucoup, Attic. Attic, d'ailleurs, qui sera. T'as un nouveau single à l'imparfait qui est disponible. Tourné en 2027, Zénith le 18 mars 2027.
Exactement.
Et merci, alors que tu fais. Je sais que t'es dans des séances déjà de répète, de préparation, de sport, d'être venu ici. Ça fait plaisir.
Bah, ça me fait très plaisir pour parler de ma grande sœur et d'entendre plein d'anecdotes, ouais, c'est génial, et plein de savoir. Voilà.
Et merci beaucoup Marta vraiment d'être venu aussi nous partager, toi qui étais vraiment là pendant la création de ces albums-là, et notamment de l'album Dans ma bulle. Vraiment merci d'avoir été là aujourd'hui. Et merci à toutes les personnes qui ont participé à la fabrication de cette émission, préparée par Alessia Lacour, Redouane Tella, réalisée par Gaëtan Colli. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert, et la technique ce soir c'était Gaspard Guy Bourget et Loïs Moreau. Merci aux équipes web et vidéo, on se retrouve lundi.